Nous allons donc maintenant parler de la carrière de Miyazaki, qui a une longue carrière qui commence dans les années 60 au sein de la Toei, sur laquelle on ne reviendra pas forcément, tout simplement parce qu'elle est très liée à la carrière de Takahata, avec son premier film en 68 qui est Horus, le prince du soleil, et que très bientôt il y aura un podcast sur Takahata, qui nous permettra de parler de tous ces films. Et donc on va directement passer à 1979, qui voit Miyazaki réaliser officiellement son premier film, qui est donc le château de Cagliostro. Est-ce que vous l'avez vu et est-ce que vous avez aimé? Quels sont vos souvenirs de ce film? Je crois que Justin, tu aimes beaucoup Cagliostro.
Oui, donc pour moi c'est vraiment un grand film d'aventure. Donc puis Miyazaki qui arrive un peu là par accident, parce que l'histoire c'est à la base il avait fait sa série d'ailleurs avant de sa série Conan le fils du futur, qui est un peu le brouillon du château dans le ciel, de Nausicaä, enfin les choses. Et je crois qu'il avait rencontré, je sais plus comment je s'appelle, il avait un producteur ou un animateur qui l'avait accompagné dessus, je me souviens plus son nom là. Et donc du coup qu'il l'avait accompagné dessus et qu'il avait pas mal aidé puisqu'il avait élevé les standards de l'animation un peu. Parce que c'était assez figé l'animation dans les années 60, 70 à la télévision. Donc il avait un peu élevé les standards pour vraiment faire une grande série d'aventures. Et donc c'est ce collaborateur-là qui produisait le film qui était coincé. Donc il a appelé Miyazaki pour venir réaliser le film. Donc c'est vraiment une commande, une vraie commande, quoi. Il a vraiment réussi à faire un grand film d'aventure, à s'approprier pas mal le film par rapport à la vraie série Edgar, enfin Lupin 3.
À laquelle il a participé d'ailleurs.
Aussi, ouais, tout à fait. Avant et après d'ailleurs. Il a refait des épisodes après aussi. Et il amène vraiment, on sent son style, le côté, l'influence européenne déjà avec le château, l'influence déjà de Moebius, du Roi et l'Oiseau. Enfin, il y a pas mal de choses qui l'amènent. Et puis même le côté tragédie, c'est beaucoup moins léger que la série Lupin 3. Il y a un côté romantique. Tragique, quoi qu'on n'a pas, et puis bon, déjà aussi les scènes d'action, enfin c'est assez virevoltant. Je trouve que c'est déjà un premier grand film, quoi. C'est un vrai grand film d'aventure, quoi.
Oui, ça, il y a déjà à la fois la ligne claire qu'on va
Ouais.
retrouver presque dans toute l'œuvre du Miyazaki, puis ce sens du mouvement et de la vitalité qu'on retrouve effectivement. Moi, c'est surtout le souvenir que j'ai d'un film extrêmement animé pour le coup, avec énormément de mouvements, d'action et une vitalité naturelle. Enfin, voilà, les choses. Pardon, nous avons perdu Yannick. Donc, je vais finir ma phrase quand même.
Vas-y.
Donc les choses s'enchaînent tout à fait naturellement dans ce film. Donc chers auditeurs, nous sommes désolés, nous avons perdu Yannick qui voulait réagir sur le château de Cagliostro et malheureusement Skype a censuré sa réaction.
Et puis sinon, c'est quand même significatif de ses débuts où c'est l'influence un peu européenne qui domine dans ses premiers films. Dans Cagliostro, t'as le château dans le ciel où. Pareil, c'est quand même les paysages, les décors, toute l'ambiance est quand même beaucoup plus européenne que japonaise. Et limite à partir de peut-être Totoro, oui, voilà, où tu commences à avoir les fantômes, les esprits un peu japonais. Même là, tu as un côté Alice au pays des merveilles aussi à côté. Donc c'est quand même assez dominant jusqu'à peut-être Mononoke, où là, tu as vraiment l'invasion du folklore fantastique japonais. Mais jusque c'est quand même les débuts, toute la première partie de carrière, c'est vraiment très européen au niveau de l'influence visuelle, de l'ambiance.
C'est assez étrange d'ailleurs parce que ce qui a fait, je pense que Miyazaki a explosé en France avec Princesse Mononoké, surtout avec Chihiro derrière qui a vraiment bien marché. Et c'est vrai en tout cas, ce qu'on a aimé d'abord, c'est le côté exotique et un peu tout
Japonais.
le folklore japonais qu'il y avait dans son œuvre. Voilà, les petites créatures de la forêt, la mythologie japonaise, les fantômes. Et finalement, c'est vrai que quand on
Limite
considère
des exceptions, quoi.
ces limites des exceptions, quand on considère sa filmographie, il y a une influence très européenne qu'on dénote sur l'ensemble de sa carrière. Donc ça, est-ce que c'est pas
D'ailleurs,
une contradiction?
quand il faisait les séries un peu de.
Sherlock Holmes,
Les
tout ça.
séries, même avant, dans les années 70, quand il faisait des séries comme Heidi et tout ça, en
Andy,
fait,
mais
il avait été envoyé par la Toei, il avait été envoyé en Europe pour étudier les paysages. Les décors, les châteaux et autres, ou même en Suisse, vu qu'ils disent ça se passe dans les Alpes, pour étudier les décors. Donc, déjà, bon, il y avait déjà cette influence avant, mais c'est là aussi s'est imprégné
Après,
de toute cette
c'est pas le
ambiance.
seul, quoi. Voilà, on sait que Tezuka, c'est pareil, quoi. Il avait l'influence Disney, l'influence Betty Boop, Popeye, etc. Donc, ouais, voilà.
Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le château ambulant,
qui est donc son avant-dernier film. Il revient un peu à cet esprit un peu européen.
Oui, oui, parce qu'il avait quitté avec Mononoke et Shiro, il était revenu à une ambiance japonaise, et puis du coup, ça revenait assez...
Ça, comme tu disais, c'est deux exceptions, en fait, vraiment. Mononoke et Shiro, je trouve que c'est ceux qui sont le plus imprégnés du folklore japonais, parce que le reste, on voit Porco Rosso, c'est l'aviation européenne.
Peut-être Nausicaa, c'est entre... Nausicaa, c'est entre les deux.
Nausicaa, c'est encore autre chose. C'est un espèce de conte, un peu... C'est même presque de la science-fiction post-apocalyptique. C'est même pas... beaucoup plus irréel, un peu comme
mais t'as le côté, tu sens l'influence Moebius quand même, c'est peut-être celle où tu le sens le plus, le côté Moebius.
Il y a le folklore européen qui ressort quand même.
Tu sens Arzak, le côté des ambiances un peu Moebius, les lincales, tout ça.
Moebius, de toute façon, c'est vraiment c'est l'influence quoi, majeure.
C'est amusant ce que tu racontes sur son voyage en Europe qui rejoint encore le côté Le Vent se lève, puisque Jiro dans Le Vent se lève est envoyé en Allemagne. Pour étudier l'aviation allemande et continue son voyage en Europe pour voir comment les Européens font pour ramener
ça rajoute encore ce savoir-faire biographique, autobiographique.
Tout concorde.
Ouais. Et puis même au niveau de l'influence littéraire, quoi, il y a aussi ce qu'à ses débuts, je crois, il avait commencé par faire des études d'économie, rien à voir avec l'animation, mais bon, vu qu'il était passionné, je crois, j'avais vu, il avait fait une thèse où il avait étudié la littérature enfantine, il avait fait partie d'un club d'études sur la littérature enfantine, et puis on voit bien, pareil, dans la construction de ses films, où c'est vraiment, on sent qu'il y a un classicisme, on sent qu'il a bien étudié la chose, c'est vraiment limpide dans ses films, ce côté-là.
En tout cas, c'est rare, là, je vais encore revenir au Vent se lève, mais des films d'animation qui citent Paul Valéry dès leur titre,
c'est ça.
Dans lequel il y a Thomas Mann et la Montagne Magique également qui sont cités, donc on sent quand même une modernité classique dans la littérature qui se traduit aussi dans la construction de ces films qui ont toujours une forme très littéraire, très linéaire souvent,
d'ailleurs,
même si la fantaisie surgit comme ça.
D'ailleurs, du coup, ce qui est drôle, c'est dans les films japonais où il dépend moins du scénar, parce que Shihiro, c'est beaucoup plus libre. Et quoi que je dis ça, Mononoke aussi, c'est quand même une construction bien pensée. Mais Shihiro, du coup, c'est son plus folklorique, et du coup, il s'est moins abandonné à un scénar très construit, et ça passe tout seul. Quoi.
Quel est votre le Miyazaki qui vous a le plus touché, et pourquoi ?
Moi, c'est le voyage de Shihiro, parce que c'est peut-être celui qui m'a emmené le plus loin, tout simplement. Comme vous disiez tout à l'heure, quand on veut voir un film de Miyazaki, on veut être transporté, on veut des envolées lyriques, la magie, des monstres de partout, et cette inventivité, cette créativité qui transpire à chaque instant. Donc je trouve que Shihiro, ce principe de c'est un espèce de monde des esprits comme ça qui rejoint un peu ce qu'on retrouve dans Alice au Pays des Merveilles, comme tu disais tout à l'heure. Aussi il y a déjà à côté dans Totoro, mais on voit aussi ça dans Shihiro.
C'est le mélange rêve réalité,
on sait pas, il y a toujours un petit doute, c'est réellement passé ou pas.
Après, c'est Alice au Pays des Merveilles mais version japonaise.
Exactement.
Et donc cette mythologie qu'il crée avec cette grande maison spécialiste dans les bains et pour les dieux qui viennent se reposer, tout ce principe-là.
Parce que dans Totoro, tu as déjà le côté Lewis Carroll, mais sans avoir le monde, d'être emporté dans un monde différent, mais tu as déjà les petites créatures.
Et puis Shihiro, mine de rien, c'est quand même c'est beaucoup plus... Enfin, c'est assez sombre aussi.
C'est vrai que pour un film pour enfants, ça va, c'est quand même...
Ça parle d'esclavagisme, ça parle... c'est quand même assez... Pas non plus... Et c'est comme on retrouve, comme dans beaucoup de films Miyazaki, toute cette populace un peu joyeuse, ils vivent bien, mais ça quand même pas. Enfin, ils sont au service de la maîtresse, la grande matriarche, quoi.
C'est inquiétant. Ouais, vu gamin, les parents qui sont transformés en cochon, elle se retrouve perdue dans la cité, dans l'espace.
Puis la première fois qu'on la voit, la matriarche, elle fait peur. Hein, ouais. Une grosse tête comme ça, en gros plan, avec ses gros yeux, là. Okay. Mais moi, d'ailleurs, c'est...
D'ailleurs, dès que t'as un perso comme ça, c'est inspiré de sa mère, en fait. T'as vu que dans Le Château dans le Ciel, t'es déjà la mère des pirates, qui est assez soupoulée, elle fait un peu peur au début, mais finalement, elle a croqué, quoi. Et puis souvent, quand t'as des persos comme ça, souvent inspiré de
sa propre... Shihiro, c'est quand même, c'est assez super sombre. Il y a ce côté, il y a toujours cette perte des repères, et elle perd son nom. C'est l'enfance qui disparaît finalement, l'innocence, etc. Donc c'est quand même
Mais elle apprend à se prendre en main, puis finalement, ça reste la petite fille un peu capricieuse, un peu boudeuse, et là, elle apprend à...
Non,
et
puis au niveau...
Parce que t'as le côté travailleur, Miyazaki, il aime bien un peu vanter le travail, les efforts, et puis là, on voit bien que une petite fille un peu oisive, et puis il montre un peu la manière de grandir dans le travail, la manière de se prendre en main,
c'est très japonais, quoi, en fait.
Mais pas dans le côté abrutissant, quoi. Dans le côté obéir, c'est le côté le travail, c'est enrichissant. C'est ce côté-là qu'il y avait déjà dans Kiki, la petite sorcière, où t'as la petite sorcière qui part pour la ville, qui découvre les vertus du travail, qui apprend à vivre toute seule. Donc c'est un peu le prolongement avec ça dans Shihiro, quoi.
C'est aussi l'apprentissage pour les personnages d'une certaine forme d'autonomie, en fait, dans ces deux films. Alors que c'est vrai que dans beaucoup de films japonais, généralement le travail est une vertu qui vise à la collectivité, presque à l'asservissement. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire apprendre à vivre par soi-même.
Ouais, justement, c'est ce qui fait un peu tout ce qui est intéressant dans ces deux héroïnes de Miyazaki, qui est les plus intéressantes d'ailleurs pour moi, contrairement à une Nausicaa par exemple, enfin on l'expliquera peut-être après, mais c'est peut-être les deux personnages qui évoluent plus chez Miyazaki au niveau des héroïnes. Et justement, parce que finalement, au départ, Chihiro, c'est un peu une petite peste, quoi. Elle est avec ses parents, elle râle, elle est un peu désobéissante, enfin, elle veut pas aller avec eux et tout. Et puis au final, elle va grandir, comme vous l'avez dit. À travers les épreuves.
C'est le compte moral, quoi, encore une fois, les influences européennes, etc.
Voilà, et puis pour revenir sur Chihiro, il y a quand même des visions fantasmagoriques qui ont un peu marqué mon enfance, parce que moi c'est le premier Miyazaki que j'ai découvert en 2001 au cinéma. Je connaissais pas, j'avais 12 ans en même temps, j'étais encore un peu petit, quoi. Et puis ça avait été, j'ai dû le revoir 5 ou 6 fois derrière, tellement ça m'avait marqué, quoi. Donc je me rappelle de ce train qui sur l'eau avec l'homme sans visage, tout ça.
C'est le film qui a le plus marqué en France.
Super belle musique d'ailleurs, voilà. De Visaichi, t'as un morceau au piano qui joue.
C'est toutes ces visions qui m'avaient un peu marqué, et donc aujourd'hui là, ça me marque encore, quoi. Ce qui fait que voilà, j'aime énormément ce film.
C'est aussi étrange de constater, enfin étrange, on peut constater que pratiquement tous ces films adoptent un point de vue féminin, en fait. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'héroïnes. Là, on a les affiches sous les yeux, et il n'y a pas une affiche sur laquelle, à part Porco Rosso et Cagliostro, sur laquelle un personnage masculin finalement est mis en avant.
C'est vrai que c'est très féministe en général, Miyazaki, toujours des personnages féminins très forts, très indépendant, donc ça revient sur Nausicaa, la réponse est Mononoke, qui était un peu une amélioration, on peut dire ça, c'était une amélioration, c'était un peu le brouillon de Mononoke, et puis on retrouve ce genre de perso très fort à chaque fois, quoi.
Voilà, justement, pour confronter un peu ces deux visions-là, Mononoke et Nausicaa, ce que j'aime beaucoup dans Mononoke, au final, elle pense que c'est une louve, quoi, c'est plus une humaine, et elle est très renfermée, elle fait confiance à personne à part à sa meute de loup. Et pareil, il y a une évolution par rapport à ça, elle s'ouvre au personnage masculin, alors que Nausicaa, j'ai un énorme problème avec Nausicaa, c'est que elle est parfaite dès le début, en fait.
C'est une héroïne pure,
très archétypale, et la grande princesse, la princesse de son peuple qui va les sauver, et on sait dès le départ qu'elle va les sauver, on sait dès le départ que c'est un genre d'élu, et finalement elle a déjà raison dès le départ, au début du film, et on sait un peu comment ça va se finir, quoi. Donc voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec cette héroïne, c'est que je m'y attache pas assez, en fait.
C'est la figure du Messie, quoi.
Elle a pas assez de faille, peut-être.
Elle a pas de faille, quoi. Voilà,
c'est la figure de la bonté, de la pureté. Voilà.
Je la trouve moins intéressante, quoi.
Donc j'imagine que Nausicaa est le film préféré de personnes autour de cette table,
sauf peut-être j'aime beaucoup
de Yannick. Quoi,
c'est très beau, mais il y a vraiment un côté brouillon, comme tu dis. C'est, on a l'impression que c'est un peu les prémices de ce qui va arriver après. Donc mais ça, c'est rétrospectivement, quoi. Parce que
ça reste un très grand
film. Ça reste un très grand film, voilà. Mais en connaissant l'œuvre entière.
Surtout, vu que la réponse, c'est Mononoke, où il a essayé
il a apporté des nuances qu'il n'y avait pas.
Un côté plus accompli dans Mononoke, effectivement.
Mandika, c'est 1984, hein. En 86, il fait le château dans le ciel.
Ah bah, ça, c'est
sorti un peu plus tard. Ouais. Hein. C'est ton préféré. Bah, ça tombe bien. C'était la question.
Bah, c'est le côté vraiment, bah là c'est vraiment le pur côté européen, l'aventure, ça te rappelait vraiment les bouquins que tu lisais quand t'étais gamin. Tu pars d'un point A, de rien du tout, et puis tu te retrouves à la fin vraiment le petit garçon dans son village, de rien du tout, c'est vraiment, c'est limite, c'est Bilbo le Hobbit, quoi. Ça part d'un point, et puis t'as l'aventure qui vient à toi sans que tu t'y attendes, et puis du coup là, ça part vraiment dans les grandes envolées, puis t'as tous ces thèmes qui sont là. On en a parlé tout à l'heure, donc le côté la technologie, donc le côté l'utilisation de la technologie en fait, qui peut être aussi néfaste que positif, donc ça rejoint aussi sa fascination des avions, le côté peut être des armes de destruction ou alors un côté rêveur, le fait de s'envoler, d'être dans les airs, il y a ce côté-là, et puis comme on disait aussi avec le robot justement, ou même la forteresse, qui est fascinante dans le ciel, mais en fait c'est un engin de destruction, et puis les robots aussi qu'on a dans le film, qui détruit à un moment donné, qui rase une armée, et puis plus tard qui sera au contraire une vertu écologique, qui va soigner la faune et la flore sur... Et puis vraiment c'est épique, quoi, là c'est vraiment, avec Mononoke, c'est vraiment le plus épique, quoi, il y a vraiment des moments... C'est la grande aventure, avec un grand A, quoi.
Ce qui est bien aussi dans son œuvre, c'est qu'il y a toujours une forme de... alors, pas d'ambiguïté, mais en tout cas les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ont l'air. On sait que c'est plutôt un écologiste convaincu, il est antimilitariste, et pourtant il n'y a pas une condamnation, on va dire directe, des technologies dans ces films. Il y a toujours cette polarisation en fait, qui se crée,
quoi, c'est la manière de ce qu'on en fait,
qui est opéré.
Bah, c'est comme ça à tous les niveaux en fait. Il y a toujours, même au niveau des personnages, par exemple, à part Cagliostro, les méchants sont jamais vraiment méchants. En fait, c'est toujours cette.
Bah, c'est ce qui fait la différence, voilà. avec les œuvres américaines. Voilà.
Il n'y a pas vraiment de méchants d'ailleurs.
Non, voilà. Il n'y a pas vraiment de méchants, parce qu'au départ, on peut penser que ce sont les antagonistes, et puis finalement, ils se lient.
Bon, t'as Dame Eboshi, mais elle a ses raisons aussi. Voilà. Tu peux pas non plus lui en vouloir de faire ce qu'elle fait, même si ça détruit la nature. Enfin, il y a toujours.
Ouais, c'est plus ambigu, quoi. C'est plus ambigu. Alors que Disney, il y a vraiment le bien, le mal, et méchante sorcière, etc. Mais là, tous les personnages ont des raisons propres. Ouais, voilà.
C'est rare d'avoir un vrai méchant ouvertement. Par contre, il y a souvent des personnages aussi un peu entre les deux qui se cherchent. Des personnages qui un peu guerriers, mais qui un peu fougueux, un peu guerriers, qui se perdent dans la violence, mais qui ont un bon fond. Il y a toujours, ça va être dans Chihiro, t'as le dragon, comment il s'appelle déjà le...
Bah, c'est Aku.
Oui, Aku, dans tous ses films, quoi, dans Mononoke, bon, t'as San qui est comme ça, Mononoke, la princesse Mononoke, qui est comme ça, qui est un peu contre les humains, mais finalement, un côté guerrier, qui est révolte contre tout, mais finalement, qui a quand même un bon fond.
Mais est-ce que ça serait pas justement le fait que... qu'à cette époque-là, voilà, ce qui différencie ces films-là du Vent se lève, c'est que là, eh ben, il y avait ces personnages-là qui étaient perdus un peu, et Miyazaki leur trouvait des circonstances ou des excuses. Ou on peut prendre ça comme une critique de son pays, mais finalement, qui dit que finalement, on avait des excuses, on avait des circonstances atténuantes.
Ouais, peut-être qu'il était plus optimiste aussi à l'époque.
Alors que dans le Vent se lève, là, il est...
Là, c'est la fin.
Il
est désabusé, quoi.
En même temps, le côté néfaste, même dans Le Vent se lève, n'a pratiquement pas de visage. Enfin, on voit finalement les personnalités qu'on croise. N'ont pas forcément mauvais fond dans le
même
dans
les
le
Allemands film. À un moment ils vont
même
en
les
Allemands,
Allemands
ouais,
ils vont
en Allemagne pour justement aller voir la technologie,
quand ils le laissent pas voir un petit côté
oui, mais ils ont pas vraiment de visage dans le film, c'est à dire qu'il y a ce côté un peu,
c'est l'Allemagne.
Le seul Allemand que tu vois vraiment développé, c'est celui qui croise au Japon, qui est quand même sympathique
et qui est un personnage positif,
qui est inspiré d'ailleurs d'un collaborateur de longue date européen qui voulait dessiner depuis longtemps, qui n'avait pas réussi, et qui l'a dessiné. Ouais.
Et ce qui est assez intéressant pour rebondir là-dessus, c'est de voir qu'il a fait Le Château dans le ciel, qui est vraiment un film à grand spectacle, avec des grandes courses-poursuites, premier Ghibli. Et puis juste après, on ne l'a pas vécu comme ça, nous, en Europe, mais juste après, je crois qu'il a fait Totoro, c'est ça ?
Exactement.
Et qui est vraiment le film le plus intimiste au monde, quoi, et c'est vraiment un énorme spectacle.
Mais je crois qu'il était arrivé au bout du... Parce que Château dans le ciel, c'était, je crois qu'il voulait faire un peu le... Il cherchait depuis un moment à faire un peu le film d'aventure ultime, et puis je crois une fois qu'il a réussi avec Château dans le ciel, ce qu'il court après ça, tu vois, Conan le fils du futur, c'est vraiment la série, pareil, c'est le brouillon du Château dans le ciel, c'est une grande série d'aventures, plein de rebondissements. Après, t'as Cagliostro aussi, qui est un pur film d'aventure, t'as Nausicaa, t'as l'impression qu'il y avait une quête de vraiment à réussir à faire un film d'aventure, vraiment le film d'aventure. Et une fois qu'il a réussi, je crois, il a dû se dire qu'il avait réussi, t'es arrivé au bout de cette recherche-là avec le château dans le ciel, donc il pouvait faire autre chose, quoi.
Ouais, et puis après, il enchaîne avec Totoro, Kiki, Porco
Parce
Rosso, qui
qu'après,
sont
c'est des films plus intimistes
des,
après,
des
en
films un
plus.
Peu plus intimistes, un peu plus proches de.
Il y a vraiment des périodes, hein, finalement.
Voilà. Et puis
c'est
justement, t'as.
Avec Mononoké, mais
voilà.
Uniquement en 97, comme pour pouvoir quelque chose.
Justement, c'est son producteur qui lui avait dit sera peut-être. T'es un peu vieux maintenant. Miyazaki, il faudrait peut-être que tu fasses ton grand film d'action, que tu reviennes à ça, et donc et c'est comme ça qu'il l'a convaincu. Il pensait qu'après il serait trop vieux pour faire un autre gros film comme ça, donc c'est pour ça
c'est
qu'il
pour
a
ça
fait
qu'il a
Mononoké.
Fait Mononoké, effectivement, qui devait être le dernier d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit je vais faire
on va en
un
parler,
dernier film, un grand film d'aventure.
Bah justement, Mononoké, ça reste mon préféré, quoi, comme, et en son peut-être plus de maturité
on
que
est
dans
pas
les.
Mal à avoir découvert avec celui-là,
ouais,
je pense.
Déjà, il y a ça, Porco Rosso, moi ça m'était un peu, voilà, un peu passé dessus. Enfin, au-dessus, quoi.
Parce que
comme,
c'est le premier que j'ai vu, moi aussi.
Et c'est vrai qu'on sent déjà dans Mononoké, il y a une forme, il y a le lyrisme qu'il n'y a pas dans Le Vent se lève, quoique, mais on sent déjà une forme de désenchantement,
oui, il y a cette gravité.
De gravité. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est une scène avec des lépreux, en fait. Enfin, on voit des gens qui sont malades en fin de vie, et un discours qui rejoint un peu, d'ailleurs, Le Vent se lève, ne serait-ce que dans le titre. Le personnage dit finalement, même dans cet état, on s'accroche à la vie. Et on continue de vivre. Enfin, donc, c'est un peu il faut tenter de vivre qu'on retrouve dans le titre. Et il y a déjà cette gravité d'une personne qui regarde la vie avec un côté assez assez tragique dans la manière d'appréhender les choses, mais qui est encore baigné dans une grande fresque d'aventure épique qui emporte tout. Et il y a le merveilleux qui est encore extrêmement présent,
même
si voilà,
ça
le danger
ça signe un peu la fin du merveilleux, justement. C'est le thème, c'est la fin de la coexistence entre le merveilleux, les esprits, la forêt, et puis le monde réel. Finalement, la fin du film, c'est le monde réel. Enfin, t'as le dieu cerf qui meurt, enfin, qui explose, qui s'inscrit dans le quotidien, mais on n'a plus de vrai esprit de la nature. C'est la fin de la coexistence, un peu de cet esprit de la nature, de la magie, et puis des humains. C'est un peu comme dans un autre genre, c'est un peu Excalibur, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, de Bourman, ou avec Merlin, où c'est la fin du monde de la magie pour le monde des hommes, bah même le retour du roi, Seigneur des Anneaux, où c'est la fin de tout ce qui est merveilleux, et puis pour signer l'ère des hommes, il y a un peu de ça aussi, quoi, avec son côté écologique, quoi.
Et le paradoxe, c'est qu'après ce film, finalement, je pense que la boucle sera complète, justement, avec ce désenchantement qui est total dans Le Vent se lève, mais finalement, avec Chihiro et surtout Ponyo, il va y avoir un retour du merveilleux, un retour de l'enfance, de l'enfantin, et d'une espèce de joie voilà, perpétuelle et de découverte qu'il va y avoir dans son film. Il serait peut-être finalement une espèce de parenthèse, voilà, qui il referme et
il revient. Si ça se trouve, il va nous revenir avec un film super joyeux.
Ouais, c'est ça, en fait, ça, on voit un peu au travers de ses films, on voit un peu les soubresauts de sa réflexion.
Ses états d'âme.
Voilà, c'est ça. Il part sur Mononoke en se disant que ça va être son chant du cygne et que c'est la fin d'un cycle, etc. Et puis finalement, il se dit, bon, bah, peut-être que non, finalement, je vais repartir. Et il repart sur le château dans le ciel, ou le château ambulant, je veux dire, et Ponyo, c'est virevoltant, c'est super léger, quoi. On a l'impression qu'il a retrouvé une seconde jeunesse.
Oui, ah oui, mais voilà. Les années 2000, c'était pas tant.
Et après Ponyo, on se dit peut-être qu'il va encore continuer ad vitam, quoi. Ouais. Et finalement,
mais c'est des cycles, hein, c'est un état d'esprit. Ouais.
Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment, quoi, on peut pas se croire totalement quand il dit qu'il va arrêter
Surtout que comme je vous avais dit à la Projo, il y avait eu comme plus ou moins un démenti, enfin on sait pas trop,
ouais,
mais
dès
que.
Ouais.
Bon, on va parler de ça alors pour le coup. C'est vrai que le vent se lève est annoncé.
Préféré,
bon, on y reviendra.
Moi, c'est
Mononoké, après.
Ouais, ah, Mononoké,
un peu pour les mêmes raisons.
C'est sûr. Mais on y reviendra quand même. Tu vas trouver un autre film préféré, pour le coup.